Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et bonjour tout le monde, le réveil culturel c'est tous les jours à 6h à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou mieux, l'abonnement au podcast disponible sur franceculture.fr. Et tous les vendredis, on parle de bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler de la bande dessinée de Jérémy Dress, éditée par Stenkis. Si je t'oublie, Alexandrie, qui fait suite à son enquête. Nous n'irons pas à Auschwitz, c'est-à-dire il y a 7 ans, il enquêtait en Pologne sur la mémoire familiale du côté du père, et là, il se rend en Égypte où ses grands-parents maternels ont grandi avant d'en être expulsés. Et il raconte donc, dans cette quête-enquête, en bande dessinée, l'Égypte d'aujourd'hui et l'Égypte de ses grands-parents. Le réveil culturel avec Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, et à la prise de son ce matin, Cédric Châtelut.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Jérémy Dress.
Bonjour Toufik Hakem.
Si je t'oublie, Alexandrie, comment continuer à questionner la mémoire familiale? Vous avez commencé par la Pologne, il y a 7 ans, je le disais, dans « Nous n'irons pas voir Auschwitz », c'était plutôt la famille du côté du père.
Tout à fait, oui.
Et là, c'est du côté de la mère. Parce que vous apprenez que vos grands-parents sont égyptiens, ou du moins ont vécu en Égypte.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai envie de dire, le point commun entre les deux, c'est que ça part d'un vide, puisque là, à nouveau, en fait, ça part du décès de ma grand-mère maternelle et mon grand-père qui part en maison de retraite et leur appartement que j'ai toujours connu qui se retrouve vide. Et à cette époque-là, j'étais un peu oisif et du coup, j'allais de temps en temps là-bas explorer, essayer de retrouver des choses. Et voilà, c'est comme ça que ça démarre avec une...
Mais vous le saviez plus ou moins qui venait d'Égypte, vos grands-parents?
Oui, alors ça, je l'ai toujours su, mais c'est juste qu'après, ils voulaient pas parler de leur jeunesse, de leur enfance là-bas.
Ce qu'ils appellent des vieilleries.
Ce qu'ils appellent exactement des vieilleries. Alors, pour moi, c'était complètement incroyable parce que du côté paternel, ma grand-mère me racontait toutes ces histoires de Varsovie des années 30. Mais de l'autre côté, c'était rien, silence radio. Et du coup, en allant dans cet appartement, j'ai fini par retrouver une vieille mallette où il y avait un album photo de leur jeunesse là-bas, et aussi des vieux papiers d'identité d'avant. Et puis voilà, j'ai commencé quand même à questionner mon grand-père le plus possible. J'ai réussi à récupérer quelques parties de leur jeunesse, mais bon, c'était toujours entrecoupé, et effectivement, c'est des vieilleries, pourquoi tu t'intéresses à ces choses-là, enfin, voilà.
Et donc, vous vous rendez en Égypte avec votre mère.
Voilà.
Et le Julien Dress qui se rend en Égypte est surtout un père, il vient d'avoir un enfant, donc on comprend que la transmission de cette mémoire est à ce moment de votre vie très importante. Pourquoi vous décidez d'ailleurs de faire ce voyage avec votre mère? Même si c'est elle qui s'est invitée plutôt.
C'est vrai, voilà. J'ai plus envie de dire ça comme ça. Et franchement, je suis très content. Ben, elle avait envie déjà. Alors que de l'autre côté, si on reprend, nous n'irons pas voir Auschwitz. Mon père, pour lui, la Pologne, c'était méfie-toi des Polaks. Enfin voilà, il avait un vrai rejet, comme avait pu l'avoir ma grand-mère. Alors que de l'autre côté, non, ma mère avait envie de voir, en fait.
Ce pays qu'elle connaissait pas.
Je pense aussi parce que ses parents ne lui avaient rien transmis. Et en fait, le fait qu'il lui avait absolument rien transmis faisait que pour elle, il y avait un vrai vide à combler. Et c'est aussi ce qui faisait qu'elle avait envie de le faire. Je me suis dit, pourquoi pas, ça fait longtemps que je suis pas parti avec elle, mais tentons le coup. Et puis bien sûr, il y avait aussi l'auteur derrière, et je me disais qu'un voyage avec ma mère, ça pouvait faire des belles surprises.
Alors, cette bande dessinée, si je t'oublie Alexandrie, c'est pas seulement votre enquête familiale, il y a un vrai côté reportage, c'est l'Égypte d'aujourd'hui, et les derniers juifs d'Égypte, parce que vous allez rencontrer les derniers représentants de cette communauté.
Oui, effectivement, en fait, c'est souvent ce que moi j'aime faire, c'est-à-dire à la fois allier la quête identitaire, la quête familiale,
personnelle,
et
essayer de comprendre l'histoire, ouais.
Et voilà, le reportage, du coup, aller rencontrer justement ces représentants-là, justement pour mieux comprendre l'histoire, parce que c'est eux qui vont être le plus à même de m'expliquer le contexte. Et en fait, comme je vous disais que mon grand-père disait assez peu, ben c'est vraiment grâce à ces gens-là que j'ai rencontrés sur place que j'ai pu mieux comprendre ce que eux avaient vécu aussi.
Enfin, mieux comprendre, mais et c'est tout, hein. Je veux dire que vous n'avez pas les réponses à toutes les questions. Vous vous rendez compte une fois arrivé sur place, une fois que vous déroulez cette histoire, l'histoire de vos grands-parents et d'une manière un peu plus générale l'histoire des Juifs d'Égypte, vous comprenez surtout que l'affaire est très compliquée.
Effectivement. Bah en fait, je trouve que l'histoire de mes grands-parents, je me rends compte qu'elle est quand même pleine de mystères, même si j'essaye de creuser tout ce que je peux. Mais elle est aussi à l'image des Juifs d'Égypte et aussi des raisons de leur départ, parce que voilà, comme vous avez dit, il en reste assez peu. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, il y en avait quasiment plus?
Et c'est exactement la question que je voulais vous poser, que vous allez nous expliquer, Jérémy.
Oui, et en fait, le problème, justement, comme cette question, elle est pleine de mystères, en fait, il s'avère qu'elle est un peu instrumentalisée, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que soit on va dire que les Juifs et les communautés juives et musulmans vivaient en très bonne entente, et il y a eu Israël qui est arrivé, et ça a envenimé les relations. Enfin, je caricature un peu les thèses, mais c'est un peu ça. Ou soit, les Juifs ont toujours vécu un véritable calvaire en terre d'islam. Et en fait, dès qu'ils ont pu partir, ils ont été soit dans les anciennes puissances coloniales, soit en Israël qui leur ont ouvert les portes, quoi.
Alors que la vérité est un peu plus complexe.
Effectivement, pour moi, c'est plus lié à la décolonisation, au nationalisme arabe qui était quand même porté par Nasser. Et du coup, qui dit nationalisme dit du coup une identité qui est un peu réductrice, un pays, une langue, une religion, et dans laquelle en fait, ceux qui correspondaient pas aux critères étaient devenaient des étrangers. Et c'est un peu comme ça que les Juifs ont été perçus à un moment donné.
Une bonne partie de ces Juifs d'Égypte ont choisi aussi de venir en France. Certains d'entre eux sont connus, comme Toby Nathan, comme Paula Jacques. Est-ce que vous avez lu leurs mémoires, leurs livres, leurs souvenirs avant de vous embarquer dans ce voyage en Égypte à la Jérémy Dress?
Écoutez, en fait, je vais vous avouer que non. Si j'avais lu du Paula Jacques quand même, mais c'est pas ce qui me... Moi, j'avoue que quand je rentre dans ce type d'entreprise, d'enquête, j'essaye de me caler au maximum sur tout ce qui va être plutôt essai, historique ou ce type de choses pour être bien calé au moment où je vais pouvoir rencontrer les différentes personnes, notamment le film de Amir Ramsès.
Ah bah oui, parce que justement. Parce que ça tombe très bien, quand vous décidez justement d'aller en Égypte, il se passe quelque chose au Caire. Un réalisateur égyptien, Amir Ramsès, qui était longtemps l'assistant de Youssef Chahine, le grand metteur en scène de cinéma. Amir Ramsès donc réalise un documentaire en deux parties sur les Juifs d'Égypte. Et aux surprises, malgré les tentatives de censure de l'État, le film obtient un succès. C'est-à-dire qu'il y avait aussi du côté des Égyptiens une envie de connaître cette histoire-là.
Pour vous dire la vérité, c'est un peu ce que j'ai découvert sur place, parce que sur place, j'ai à la fois découvert un pays, qui est le pays du général Al-Sisi, assez verrouillé et sécurisé, mais de l'autre côté, j'ai aussi découvert cette génération, dont Amir Ramsès est le représentant, mais aussi des journalistes égyptiens qui m'ont aidé dans mon enquête, qui sont des gens qui, à un moment donné, se sont dit « bon, ça suffit avec tous ces tabous de la société égyptienne, on a envie de les re-questionner, de mieux comprendre ce qui s'est passé ». Et un des tabous importants, c'était la question juive, où pendant très longtemps, les Juifs étaient perçus comme un corps étranger ou une sorte de cinquième colonne. Et tous ces gens-là, Amir Ramsès, justement, à travers son documentaire, sont venus pour re-questionner tout ça et justement apporter un nouvel éclairage, mais c'est des gens qui continuent encore à se questionner aujourd'hui, et je dois dire que j'ai été vraiment bien soutenu par certains journalistes qui sont même devenus des amis quand j'ai entrepris ces voyages et même après.
Et ce film, donc ce documentaire d'Amir Ramsès, Juif d'Égypte, a permis à des Français d'origine égyptienne qui ont connu cette histoire de prendre la parole et de parler de cette histoire. Et parmi ces Français, Sylvie Brébant, la journaliste de TV5, je ne sais pas si vous l'avez rencontrée, Jérémy Dress.
Je l'ai rencontrée en fait d'une projection de Juifs d'Égypte dans une librairie à Paris de la Petite Égypte.
Et, oui, et vous avez noté qu'elle partageait avec vous presque la même histoire. On l'écoute, Sylvie Brébant.
C'est terrible finalement comment les Juifs d'Égypte ont été victimes de l'histoire, d'une histoire de la création de l'État d'Israël. Bon, je vais pas me prononcer là du tout sur la légitimité ou pas de l'État d'Israël, mais en fait eux-mêmes étaient pas spécialement sionistes. Moi, dans ma famille, ils me disaient, tu vois, on comprenait pas pourquoi les Juifs disaient toujours de Pologne ou d'ailleurs ou d'Europe étaient tellement tentés par Jérusalem. Pour nous, Jérusalem, c'était le train de 9h52. Donc voilà, il n'y avait pas cette envie en fait d'aller s'établir en Palestine.
Et la communauté juive d'Égypte a totalement disparu du pays. Pourquoi voilà, on fait ce
donc,
film
donc c'est l'histoire qui les a fait partir. Hein, c'est 1956 principalement lorsque il y a eu la guerre avec la France, l'Angleterre et Israël.
Après la nationalisation de
voilà,
de
c'était
Suez.
Une des premières guerres judéo-arabes, on va dire, mais il y avait aussi la France et l'Angleterre qui évidemment étaient impliquées. Et donc ils ont disparu. Et en fait, il y a ce jeune réalisateur Amir Ramsès qui en fait a compris qu'on ne lui racontait pas toute l'histoire de son pays, parce que cette histoire les Juifs d'Égypte sont liés à l'histoire politique, économique du pays, nationaliste aussi. Ils se sont battus pour l'indépendance de l'Égypte.
Jérémy Dresse, quand elle dit Sylvie Brébant que il y avait le côté sombre de la Shoah, de la Pologne d'un côté, mais il y avait plutôt le soleil, une idée d'un paradis perdu. Ça, vous l'avez pas connu, même si vous avez presque les mêmes racines. Hein. Vous avez un côté polonais et un côté égyptien. Vous, vos grands-parents étaient mutiques, et s'ils étaient mutiques, c'est qu'ils voulaient vraiment tourner cette page égyptienne.
Oui, c'est vrai. Après, bon, je m'y retrouve quand même un petit peu, parce que ils étaient mutiques, ils en parlaient très peu, mais de ce qu'ils disaient, c'était plutôt, voilà, le soleil. Enfin, c'était des souvenirs heureux, je dois dire. Donc, je me retrouve un petit peu dans ces propos quand même. Le côté très noir, obscur de la Pologne et ce que... Alors, je sais pas si c'est eux ou c'est moi qui le fantasmais aussi d'une certaine manière, mais c'est leur peu de souvenirs qui me donnaient une vision plutôt idyllique de Alexandrie. Parce que, en fait, on va dire que c'était une sorte de refoulement, mais j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi, et ça m'a pas mal interrogé.
Dans votre bande dessinée Si je t'oublie Alexandrie, vous avancez quand même l'hypothèse qu'ils l'ont fait pour que les enfants soient mieux intégrés au pays d'accueil, c'est-à-dire la France, en ce qui concerne votre mère.
Je pense. Enfin, effectivement, je pense que c'est clairement une raison, et je pense que ça va aussi un peu avec l'idéologie qu'ils pouvaient avoir, parce que voilà, eux-mêmes étaient aussi très communistes. L'idée d'être très communiste, c'est aussi pour l'homme nouveau, émancipé du poids des traditions. Et je crois que c'est quelque chose que, même si après ils ont cessé de l'être dans les années 70, je crois que c'est quand même quelque chose qui a continué à les habiter. Il y avait aussi, ils ont fait le lycée français, donc cet amour de la France, de la République française. Ma mère qui s'appelle Marianne, c'est pas pour rien. Et c'est vrai que ça faisait partie. Après, pour moi, il y a aussi peut-être une autre explication qui serait aussi, qu'ils étaient issus de milieux très pauvres, défavorisés à Alexandrie. Et donc voilà, il y avait peut-être un peu. Ils sont nés apatrides en plus. Donc il y avait un peu peut-être une certaine honte en fait de leurs origines aussi peut-être. Je sais pas, je ne saurais jamais.
Dans Si je t'oublie Alexandrie, donc édité chez Stankis, je le rappelle, Jérémy Dresse, vous rencontrez donc les derniers juifs d'Égypte. On peut les présenter comme ça parce qu'ils sont très peu nombreux aujourd'hui. La communauté se résume à combien de quelques centaines,
même pas. Je crois. Pour moi, si vous voulez, mais après, ça peut être aussi une autre question. Pour moi, il y a la présidente de la communauté du Caire,
Magda Haroun, que vous interviewez longuement, et son témoignage est assez éclairant sur l'Égypte d'aujourd'hui.
Voilà. Pour moi, c'est une personne formidable, franchement, parce que elle s'implique beaucoup aujourd'hui. Elle a créé une association, La Goutte de Lait, qui rassemble des bénévoles, mais du coup, comme il n'y a plus beaucoup de juifs, ça a des bénévoles coptes ou musulmans, et qui s'implique pour la préservation du patrimoine, voilà.
C'est-à-dire quoi? Une douzaine de synagogues encore en Égypte.
Mais du beau patrimoine, ouais, tout à fait.
Ouais, mais comme c'est un roman graphique, je rappelle, c'est une bande dessinée, quand vous représentez ces synagogues qui sont hyper protégées, protégées comme si c'était des forteresses, on a une idée de ce qui se passe dans l'Égypte d'aujourd'hui.
Ouais, effectivement, et puis c'est la sensation qu'on a eu aussi pendant ce voyage, c'est d'être tout le temps un peu surveillé, le fait aussi d'avoir des difficultés de prendre des photos. Enfin, quand on est là-bas, surtout à Alexandrie plus qu'au Caire, avec un appareil photo, on n'est pas forcément vu comme un touriste, mais plutôt comme un espion. Et dans certains lieux, on nous refuse complètement de prendre des photos. Moi, j'étais très frustré, par exemple, au cimetière juif d'Alexandrie. Bon, j'essayais de retrouver les tombes de ma famille là-bas, et c'était non. Niette pour les photos, alors que en fait, comme je fais du reportage, les photos, c'est très important pour moi. C'est les archives sonores, l'enregistrement sonore et le travail de
visuel,
visuel. Donc pour moi, j'en suis sorti très très frustré.
Donc vous rencontrez ces fameux derniers juifs d'Égypte, dont Magda Haroun, donc qui s'occupe de la communauté juive du Caire. Quand elle vous dit ceci, Jérémy Dresse, quand elle vous dit qu'elle préfère le régime du maréchal Sissi parce que les minorités peuvent être protégées. Et comment vous réagissez? Parce que elle-même, qui est avocate, on sent bien qu'elle est militante pour les droits de l'homme, pour toutes les minorités. Elle-même, elle est en contradiction même avec ce qu'elle pense, ce qu'elle fait.
Ah oui, mais bon, on va dire, avant c'était les frères musulmans, elle m'a dit que sous les frères musulmans, elle avait hésité même à vraiment partir, en fait, à ce moment-là, c'est comme ça, c'est-à-dire elle fait avec, et puis en fait, il s'avère qu'elle a quand même des relations assez privilégiées, pas forcément avec le général Al-Sissi, mais avec le ministère des Antiquités, avec certains ministres. Donc en fait, c'est intéressant pour elle parce que ça va lui permettre, pour certaines synagogues, de les transformer en centres culturels. Donc par rapport à son action, c'est quand même mieux en fait d'être bien introduit dans ce régime qui est ce qu'il est, effectivement. Donc en fait, je comprends son point de vue, on va dire. Je partage pas forcément, mais je comprends son point de vue.
Et elle est très nationaliste, hein, parce que c'est très important quand elle vous parle des financements qu'elle reçoit de l'étranger, c'est-à-dire très très peu. Et elle vous dit qu'il y a beaucoup d'organisations américaines qui souhaitent récupérer quelques vestiges de la mémoire des Juifs d'Égypte. Elle refuse en disant que tout cela doit rester en Égypte.
Oui, c'est une belle chose. D'ailleurs, américaine et française aussi, il y a eu ce petit problème-là, mais qui a été, on va dire, un peu mieux résolu aujourd'hui. Oui, c'est vrai. En fait, elle est très patriote, en fait, d'une certaine manière. C'est un peu à l'image de son père, qui était un homme politique relativement connu sur la scène égyptienne, Shirata Haroun, et donc qui était un communiste, un grand communiste. Et en fait, elle a gardé.
Oui, mais Jérémy Dresse, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire que Youssef Chahine, qui adore l'Égypte, qui représente l'Égypte, il a quand même décidé de laisser ses archives à la Cinémathèque française. C'est pour ça qu'il y a la grande expo en ce moment. Et on va beaucoup d'ailleurs parler aujourd'hui sur France Culture de l'appropriation culturelle. Aujourd'hui, vous pensez qu'elle a fait le bon choix ou qu'on a tout intérêt à préserver cette mémoire en dehors de l'Égypte?
Ah non, moi je pense qu'elle a clairement fait le bon choix, plutôt que tout ce patrimoine qui se retrouverait éparpillé dans une synagogue à Brooklyn ou
dans une autre. Éparpillé et conservé, du coup.
Oui, mais en fait, elle essaye quand même de le faire. Et si vous prenez par exemple la synagogue d'Alexandrie, le gouvernement égyptien a investi, je ne sais plus très bien quel budget, mais pour la préservation, enfin, bon, il était temps, mais du patrimoine de cette synagogue-là. Et elle espère faire plus. Il y a le cimetière Bassatine du Caire, où là, il y a vraiment besoin d'un mur de protection parce que les gens viennent dormir dans les tombes, c'est pas possible. Et là, elle essaye aussi de faire des choses. Donc, elle essaye de faire, mais dans un contexte national. Voilà.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Thank you. البحر ده كله عايش من أشكال ولون الزهر ده وصفه للعين وصفه للعين والورد ده جرحه قلبي جرحه قلبي والدنيا دي مخلوقة للتنين واحد هنا والتاني
Si je t'oublie, Alexandrie, c'est le titre de la dernière bande dessinée de Jérémy Dress. C'est édité chez Stankis. Bien sûr, vous avez reconnu cette grande chanteuse, Jérémy Dress.
Une Galsoum ?
Ben non, bah, Laïla Mourad.
Ah, Laïla Mourad.
Bah, attendez, puisque vous avez enquêté
sur... C'est soit l'un, soit l'autre, alors. Oui, oui.
Bah, ceci dit, c'est pas mal de les confondre, parce que c'était effectivement les deux grandes stars de la chanson, du musical et du cinéma à cette période de l'Égypte. Sauf que Laïla Mourad était de confession juive et qu'elle a toujours choisi elle aussi l'Égypte. Elle avait la chance d'avoir de très bons rapports avec Nasser.
Oui, bah après je crois que, enfin bon, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est la fin de sa vie a pas été très très facile. Et d'ailleurs elle-même, je crois qu'elle avait des origines polonaises. Mais bon,
absolument. Mais ça, par exemple, aujourd'hui les Égyptiens le savent, c'est-à-dire c'est dans l'histoire au moins culturelle de l'Égypte.
Oui, tout à fait. Bah après, de toute manière, la question c'est toujours de savoir de quel Égyptien il s'agit, parce que par exemple, c'est vrai que le film de Amir Ramsar sur Jews of Egypt, ben quand il est sorti là-bas, c'était sale comble pendant toutes les représentations quasiment. Mais après, bon, j'imagine que ça touche plutôt les classes intellectuelles, un peu aisées, etc. Après, le reste de la population, je ne sais pas du tout à quel point il est sensible à cette question, en fait.
Comment vous revenez de cette enquête en Égypte sur les traces de la mémoire, de l'histoire de vos grands-parents, Jérémy Dress? Ça a servi à quoi, en réalité?
Bah ça servit à quoi? Enfin, en fait, moi je pense qu'il y avait vraiment besoin de le faire pour notre, enfin déjà d'un point de vue familial. C'est dur quand même de partir comme ça d'une histoire à trous qui est avec beaucoup de zones d'ombre. Enfin, moi j'avais besoin pour moi en tout cas d'aller au plus près de ce que je pouvais obtenir de cette histoire familiale. Je suis pas mécontent parce que finalement, bah, il reste pas mal de zones d'ombre, mais les zones d'ombre, ben, voilà, c'est des zones de spéculation. On s'interroge, peut-être ça a été ci, peut-être ça a été ça, je sais pas. Mais, déjà, ça, pour moi, ça a vraiment importé de mettre, comme je disais aussi, un peu de couleur dans ces images, dans ces photos de famille que j'avais retrouvées dans mon album de photos. Enfin, voir ça, aller à Alexandrie, enfin, pour moi, ça a été quelque chose de fabuleux et je crois, j'aimerais bien y retourner, clairement. Donc il y a ça, et puis après aussi il y a autre chose, c'est-à-dire que je ne pensais pas que cette question serait aussi sensible et épineuse aussi quand je l'ai fait, parce que j'ai rencontré un interlocuteur, un autre, et en fait je trouve que dans ce type de questions, ben, les gens ont toujours des points de vue très très presque un peu exagérés, enfin des vraies opinions sur ces choses-là. Ben, Maïk Darum va dire c'est à faute d'Israël. D'autres vont essayer de comparer, on va dire le drame des Palestiniens avec ce qu'ont connu les Juifs des pays arabes. Enfin, vous voyez, enfin à un moment donné, c'est vrai que quand j'en suis sorti de ce voyage, j'avais besoin de faire le clair en fait avec tout ce que les gens m'avaient dit.
Et vous avez réussi à le faire ce clair, parce que j'ai l'impression que vous êtes tout aussi perdu à la fin de cette quête, de cette bande dessinée. Oui.
Non, franchement, je trouve, enfin personnellement, j'ai l'impression d'avoir réussi à avoir quelques réponses, enfin de avoir bien mieux compris
enfin vous donnez question. vous donnez la parole à tout le monde, mais par exemple vous, Jérémy Dress, pour reprendre la question qui est au centre de Si je t'oublie Alexandrie, s'il y a plus de juifs arabes, ou pour parler de cet exemple précis, plus de juifs égyptiens en Égypte, c'est pourquoi? C'est parce que il y a eu ce conflit politique avec Israël, ou bien parce qu'il y a eu de l'antisémitisme arabe, comme on dit aujourd'hui?
En fait, les zones d'ombre, elles résident sur le fait qu'il n'y a pas eu, sauf en 1967, une juridiction qui a ciblé spécifiquement les juifs. comme il y a pu avoir dans les lois nazies, etc. Donc en 48, c'est l'année de départ de mes grands-parents où ils ont été expulsés. Ils ont été expulsés parce qu'ils étaient des opposants politiques, bon, mon grand-père communiste. Et en 56, c'était Nasser qui disait bah, on expulse tous les étrangers. Et d'un coup, bah, beaucoup de juifs
comme,
qui étaient apatrides, comme mes grands-parents d'ailleurs, ouais. Mais ils étaient déjà plus là, bah, se sont retrouvés dans ce flot-là et c'est le plus gros flot en fait finalement. Donc en fait, elle se situe là, ces zones d'ombre, c'est qu'à la fois il y a des expulsions, à la fois il y a des départs, qui sont un peu poussés, clairement. Il y a une loi de préférence nationale, je crois que c'est en 48 ou 49, qui dit qu'il faut qu'il y ait 80% de travailleurs égyptiens dans certaines entreprises. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de juifs qui se retrouvent au chômage, qui se disent bon bah qu'est-ce qu'on fait,
on part. Sauf s'ils sont égyptiens.
Sauf s'ils sont égyptiens. Et donc finalement, ceux qui sont restés le plus longtemps jusqu'en 67, par exemple, c'était ceux qui avaient la nationalité. Généralement. En 67, là, il y a vraiment, dû au conflit avec Israël, il y a vraiment une juridiction qui les cible et ont provoqué vraiment une vraie vague de départ et c'est à partir de là qu'il n'y en a quasiment plus. Donc, en fait, pour moi, je dirais que les raisons ont été un peu multiples, mais c'est clair que, pour moi, c'est vraiment la décolonisation. C'est-à-dire que, voilà, il y a une instabilité politique à un moment donné. Nasser qui prend le pouvoir, cette identité de dire, voilà, un pays, une religion, etc. Des gens qui ne se retrouvent pas là-dedans et à un moment donné, ils sont poussés à partir d'une certaine façon aussi.
Si je t'oublie, Alexandrie de Jérémy Dress est édité chez Stankis. Merci beaucoup d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci.